vin et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposé par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission que vous pourrez entendre tous les 15 jours, le vendredi à midi et rediffusé le mardi suivant à 16h. On est ici dans le studio avec Florent.
Bonjour à toutes et à tous.
Guy.
Bonjour tout le monde.
Et William.
Oui, bonjour.
Je commence direct comme ça. Pourquoi cette émission? Pourquoi avez-vous eu envie de faire une émission sur Radio Larzac?
L'année dernière, qui a été une année sabbatique pour l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron, on était sur l'organisation régulière annuelle d'un festival Polar Vin et Compagnie. Cette année, on relance l'association sous une forme collégiale, donc avec des idées qui arrivent, des gens nouveaux qui apportent leurs idées. Et on s'est dit, pourquoi pas une émission radio, puisqu'on invite régulièrement des auteurs ou des autrices. Et bon, les personnes ne peuvent pas toujours venir rencontrer ces auteurs, ces autrices, puisque ça reste l'ADN de l'association aussi, cette relation lecteur-lectrice, auteur-autrice. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire une émission quinzomadaire, on va essayer de tenir ce rythme-là. On a déjà tout programmé jusqu'à la fin juin, puisqu'on a pas mal d'activités qui vont arriver.
Justement, vous vouliez parler dans cette émission de l'actualité de l'association, donc de ce qui est prévu bientôt. Et la grosse actualité en ce moment, c'est le prix Robin Cook.
Oui, c'est le prix Robin Cook. Peut-être avant, rappeler qui est Robin Cook. Alors, Robin Cook, ce n'est pas du tout cet auteur américain, auteur de thrillers médicaux. D'ailleurs, pour la petite histoire, le Robin Cook dont on va parler a été obligé de changer de nom, de prendre un pseudo, Derek Raymond, pour que les lecteurs britanniques et américains ne le confondent pas avec l'autre. Mais on n'est pas du tout dans la même catégorie. Pour les soixantenaires, je dirais, de la région de Millau et de la vallée du Tarn, je pense qu'ils se souviennent du personnage qui était Robin Cook, cette espèce de grand échalas avec son béret, et puis c'est Macarel et c'est Mélodieu, Tony Truant, que ce soit dans les bars mi-avois ou aux buvettes des fêtes de village de la vallée. Voilà, donc... Au-delà de ça, c'est quand même avant tout un auteur qui a marqué son temps. Parmi ses romans les plus connus, hein, j'étais Dora Suarez, Crème anglaise, Bombe surprise. Les mois d'avril sont meurtriers, on ne meurt que deux fois des romans qui ont été adaptés à l'écran. Donc voilà, quelqu'un très attachant et qui a marqué effectivement son époque en tant qu'auteur. Donc il y a quelques années, c'était en 2020, il y a eu une demande auprès de la fille de Robin Cook, Zoé Cook, qui a autorisé l'association d'utiliser le nom de son papa. Et c'est comme ça qu'est né ce prix Robin Cook. Donc on reviendra tout à l'heure sur l'organisation du prix. Pour l'instant, trois romans ont été primés. En 2020, c'était Elle, le gibier, d'Elisa Vix. En 2021, la deuxième femme de Louise May. Et en 2022, Solac de Caroline Hinault.
En 2023 ?
2023, c'était la fameuse année sabbatique.
Cette année, alors, la sélection, les dates, qu'est-ce qu'on peut savoir ?
Donc, cette année, le prix Robin Cook, nous avons sélectionné 5 auteurs. Nous avons 5 romans policiers ou policiers romans noirs. Lilian Batelot pour Géronimo et moi. Audrey Brière, Les Malvenus. Thomas Cantaloube, Mai 67, Michel Pedinelli, Saint-Collier, Dominique Sylvain, Panique en Armorique.
Ces romans, où est-ce qu'on peut les trouver ?
Ces romans, on peut les trouver chez toutes les médiathèques et bibliothèques participantes, qui sont actuellement la Messa de Millau, la médiathèque de Sainte-Afrique, la médiathèque de Rodez, la bibliothèque du Viala du Tarn, la bibliothèque de Saint-Bosély, la bibliothèque Rivière-sur-Tarn et la bibliothèque Larzac-Vallée de Cornus.
Et j'imagine dans toutes les bonnes librairies.
Aussi.
Comment ça se passe, le prix, comment ça se déroule pour les lecteurs et puis ensuite pour l'association ?
Les lecteurs participent par un vote qui se fait dans les médiathèques
qu'on a cité.
À côté de ça, il y a un jury qui participe pour moitié sur le vote total. Et vers le 15 juin, je pense.
Un jury de l'association ?
Un jury de lecteurs qui ne sont pas tous membres de l'association, qui est pluridisciplinaire. Pour le moment, on est beaucoup de l'association quand même. Voilà. Pour moitié, le jury qui va voter, et pour l'autre moitié, les lecteurs dans les médiathèques et les bibliothèques. Pour un résultat qui sera rendu le 15 juin, si je ne m'abuse, à la médiathèque de Millau.
Alors on propose donc à nos auditeurs là, de se rendre dans les médiathèques, c'est sympa, si vous lisez tous les livres, ensuite vous donnez votre avis, de participer à ce prix Robin Cook. Et sinon, le 5 mars dernier, l'association Cap Sud Aveyron a proposé une rencontre avec un auteur. Alors, c'est autre chose que le prix Robin Cook, hein. Il n'a pas de rapport cette année avec le prix Robin Cook. C'était Pascal Dessin qui est venu à la médiathèque de Millau.
Oui, le 5 mars dernier, c'était un partenariat avec la librairie Syllab et la Messa de Millau, la médiathèque. Pascal Dessin, c'est quelqu'un facile à inviter parce que c'est un ami, c'est quelqu'un qui est venu sur plusieurs de nos festivals. Du coup, ça devient un peu le parrain de cette émission, puisque c'est le premier qui a été interviewé, puisque cette émission sera, on l'a dit tout à l'heure, l'occasion de faire rencontrer par leur voix et par les questions que leur posera des auteurs avec les auditeurs et éventuellement lecteurs et lectrices.
On écoute l'interview de Pascal Dessin par l'inspecteur Dérif.
L'interrogatoire de l'inspecteur Dérif.
À ta place, moi, je prierai pour que ça finisse vite.
Nous sommes le 5 mars, il est 21h06. L'inspecteur Dérif mène l'interrogatoire. Pascal Dessin répond aux questions.
Asseyez-vous, votre nom ?
Pascal Dessin.
Profession ?
C'est complexe. Auteur, romancier, nouvelliste, auteur de romans noirs. Oui, c'est mon étendard principal.
Que faisiez-vous le 5 mars entre 18 et 19 heures à Millau ?
J'étais là pour parler de mon nouveau livre, qui est encore brûlant d'actualité, qui raconte l'histoire d'une grève ouvrière. Ça s'appelle 1886, l'affaire Jules Vatrin. Une affaire qui a été une affaire importante pour l'Aveyron et même pour la France. Suite au meurtre du sous-directeur de la mine des houillères de l'Aveyron à Decazeville, une grève s'est déclenchée et une grève qui a fait bouger les consciences. Un certain état d'esprit a changé à ce moment-là, sous une Troisième République qui avait besoin de s'affirmer, de résister aussi à la puissance de l'argent tout en profitant. C'était une situation complexe. Voilà, 1886, j'étais bien heureux de revenir ici, à Millau, où il y a eu des moments formidables avec l'association Vin, Polar et compagnie. Et donc j'ai retrouvé mon public, ça a été chaud, chaleureux.
Ça, on vérifiera votre alibi. On a trouvé sur le lieu du crime ces objets, est-ce que vous pouvez les décrire ?
Oh là là, c'est une partie de ce que j'ai commis, des actes. Est-ce qu'un livre est un crime ?
Un pouce au crime, peut-être.
Non, il n'y a pas beaucoup de livres qui ne soient pas nécessaires. Il y a plusieurs bouquins. Il y a « Les derniers jours d'un homme » de Pascal Dessin, j'allais dire. Non, mais à un moment donné, on se demande. Il y a un petit côté schizophrénique dans le métier. Les derniers jours d'un homme, roman social qui se passe dans le Nord. Fermeture de Metal Europe, drame social déjà. Mais par rapport à 1886, deux choses dont on ne parlait pas à l'époque, c'est-à-dire que, et qu'on ne pouvait pas imaginer, même possible, c'est que l'affaire de Metal Europe, 2005, hein, c'est un drame social qui révèle un drame sanitaire et un drame environnemental comme rarement. On a parlé d'un Tchernobyl minier. On est là dans l'aberration la plus absolue. On est au-delà de l'acceptable. C'est terrible ce qui s'est passé à Metal Europe. Et je dirais que ça s'est passé près de chez nous. C'est-à-dire que c'est encore là. Ouais. Je n'aurais pas pu écrire 1886 sans avoir déjà fait ce chemin-là de réflexion sur le monde ouvrier, sur les répercussions d'une exploitation aberrante des ressources et des humains, quoi. Ah ben, ça, c'est mon best-seller, hein. C'est incontournable, on en parle toujours beaucoup, du bruit sous le silence.
Premier polar sur le rugby ?
Oui, le premier, et puis il n'y en a pas eu depuis, d'autres. J'ai écrasé la concurrence avec ce livre-là.
Comment l'ont pris les Toulousains, supporters du stade ?
Ah, très très bien, les joueurs surtout, c'est ce qui m'importait à l'époque. Ça a été une aventure d'écriture humaine, fabuleuse, et ça continue d'être un livre important dans mon parcours. Ouais, je peux pas y échapper.
Il n'a pas eu le bouclier de Brennus, mais il a eu quelque chose, non, celui-là ?
Oh, il a eu plein de trucs. Il a eu notamment le Grand Prix de la littérature policière. Et il a encore sur un prix, là, tout récemment, pour un livre qui a 30 ans. C'est pas mal. Alors, Un homme doit mourir. Ben là, c'est une autre aventure d'écriture, mais en cohérence. Hein. Moi, je pense qu'il y a une liaison évidente entre chacune de mes inspirations. Moi, j'écris beaucoup sur la nature depuis longtemps. Et en particulier depuis que je sens que ça va très très mal et qu'il est question de participer à une prise de conscience. Je suis auteur, mais je suis un éco-citoyen, avant tout un citoyen. Voilà, et n'importe quel citoyen responsable doit me semble-t-il, être sensible à cette question écologique, quoi. Donc depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant, je raconte la nature, à la fois sa beauté, mais aussi la douleur qu'elle me procure, parce que l'homme se comporte comme un sangouin, quoi.
Oui, mais le titre, Un homme doit mourir.
Ouais, c'est un peu sentencieux. Un homme doit mourir, c'est... Est-ce qu'il va mourir ? En plus, c'est paradoxal, parce que c'est un roman où on ne meurt pas. En théorie, il y a quelqu'un qui disparaît, je pense. Je me souviens plus très bien de la fin, mais j'avais pris comme parti pris dans ce livre qu'on ne mourrait pas. C'était assez dramatique comme ça. Le monde était assez dramatique comme ça. Alors pourquoi en rajouter ? Et c'est important pour moi, parce que je trouve qu'un peu désolant aujourd'hui cette littérature systématique où on tue des gens, on découpe des gens, on mange des gens, enfin... Non, mais le monde va mal, quoi. Je n'ai pas ce genre de fascination. Et je crois que c'est pas non plus la vocation du roman noir de montrer ça, forcément. La vocation du roman noir, c'est de raconter les douleurs de cette époque. Et elles sont pas forcément sanglantes, ni sanguinaires. Voilà. Mais on est dans le roman noir. Je pratique le roman noir. Je suis pas un auteur de thriller.
Et celui-là, c'est un roman vert, peut-être ?
Ah ben, c'est une déclaration de foi. Je déclare mon amour à la nature. Justement, la beauté, il reste un peu de beauté. Voilà, oui, toujours, tant que c'est possible. Il pourrait y avoir un complément vers la beauté, toujours, tant que c'est possible. D'ailleurs, c'est un titre que, dans mes dédicaces, je décline. parce que faut toujours s'accrocher à quelque chose, quoi. Mais j'aime bien écrire des récits, j'aime bien raconter mes marches dans la montagne, j'aime bien imaginer que des lecteurs vont mettre mes livres dans leur poche et vont prendre un petit temps nécessaire dans leur vie pour se soulager des horreurs du monde.
On a interrogé un témoin, Pierre Lemaître. C'est quoi votre relation avec Pierre Lemaître ?
Alors, Pierre Lemaître, on s'est connu à Cognac quand j'ai reçu le Grand Prix du roman noir français de Cognac en 2007. Il débutait et il avait eu un prix avec un roman qu'il avait publié au Masque. On ne s'est pas vu depuis, à la vérité, sauf une fois, on s'est croisés. Mais j'ai découvert dans son dictionnaire du polar amoureux qu'il avait... dictionnaire amoureux du polar. Il avait une certaine... il avait un vrai respect pour mon travail.
Il vous fait dire, ça peut paraître bizarre, mais d'une certaine façon, la littérature est entrée dans ma vie par la chanson.
Ah oui, complètement, oui. Oui, oui, à la maison... moi, le verbe que j'ai senti glisser en moi, c'est un verbe poétique, quoi. À la maison, j'avais la chance d'avoir des grands frères qui amenaient des livres, certes. C'est grâce à quoi j'ai lu Barjavel, j'ai lu Zola, j'ai lu Maupassant, j'ai lu Boris Vian dans mon adolescence, où la télévision était proscrite, la chance incroyable que j'ai eue. Mais les grands souvenirs poétiques sont des souvenirs de chansons. Serge Reggiani, Brassens, Jacques Brel. À la mort de Jacques Brel, je suis collégien, je pleure dans la cour de mon collège, quoi. C'est la poésie qui est là, c'est la poésie de chansons. Et l'adolescent que je deviens ensuite découvre Bernard Lavilliers, Léo Ferré, Jacques Higelin, Thiéphaine, Charlie Couture. C'est là que ça se passe, quoi. Donc oui, la chanson.
Barjavel, vous l'avez cité, Ravage de Barjavel.
Ah oui, Ravage, oui, essentiel. Mais il était prescrit aux élèves à l'époque. On était obligé de lire... Mais c'est une lecture traumatique, je trouve. Je pense que de raconter cette histoire où tout d'un coup, il n'y a plus d'électricité, c'est presque un fantasme aujourd'hui. Presque on l'espérerait que ça arrive, qu'on débranche toutes les prises et qu'on en revienne à quelque chose d'un peu plus normal, quoi. Je veux dire... Maintenant qu'on est un peu accablé, pas qu'un peu, beaucoup par le numérique, on sent comme un piège qui se resserre sur nous. Des fois, on se dit, mais si on pouvait arrêter la machine, tout débrancher, revenir à quelque chose de plus sain, de plus normal. Mais est-ce qu'on a vécu ça un jour? Je ne sais pas, ce n'est pas évident.
Donc Pierre Lemaître, toujours dans son dictionnaire amoureux du polar, dit de vous que vous êtes l'âme verte du roman noir.
Ouais, ah bah c'est gentil. Oui, oui. Ah ben bah c'est bien. Il faudrait que je note la phrase. Bah peut-être, oui, j'espère. Mais on n'est pas si nombreux à parler de cette question d'écologie, de nature. On écrit ce que l'on est. Il se trouve que moi, j'ai cette expérience de nature, de connaissance de la nature. C'est ma première passion, les oiseaux, les piafs, les animaux. J'ai élargi la palette au fil des années en m'intéressant aux papillons, à d'autres insectes, aux araignées. Bon, je suis pas un expert, mais j'ai une curiosité qui m'amène à essayer de connaître de plus en plus de choses. Et donc c'est normal que ça se retrouve dans mes livres, mais tout le monde n'a pas cette curiosité. On écrit ce que l'on est. Donc effectivement, je suis peut-être l'âme verte du roman noir français, parce que aujourd'hui, je ne vois pas quel autre auteur, à part Colin Niel, sans doute, qui ait ce goût et cette passion pour la chose naturelle. Voilà. Beaucoup plus d'auteurs que quand j'ai débuté sont concernés par cette chose. C'est formidable. À un moment donné, je me sentais très seul. Quand j'ai débuté avec « Mourir n'est peut-être pas la pire des choses » en 2003, et que j'ai mis les pieds dans le plat, et que j'ai parlé de l'engagement écologique, j'ai mis en scène des éco-activistes en France, etc., j'étais assez seul. Hein. Ça n'a pas toujours été bien reçu. Mais bon, petit à petit, mon constat a été le constat de beaucoup de gens, et les gens ne sont pas bêtes. Hein. Et les nouveaux auteurs qui sont arrivés sont ont cette angoisse de l'époque, de la planète, et parlent beaucoup de cela aussi, et c'est formidable.
Votre actualité littéraire?
Alors, il y a toujours 1886 qui continue son petit bonhomme de chemin, et j'en suis ravi, notamment sur le territoire de l'Aveyron. Et puis je sors un recueil de nouvelles qui s'appelle « Le malheur prend son temps ». Malheureusement, c'est bien le cas. Le malheur prend souvent son temps pour nous faire souffrir, nous accabler. Voilà. Et ça, c'est pour le 21 mars. Et ça sera une actualité qui m'importe beaucoup, parce qu'on dit que la nouvelle se lit peu, et pourtant, les gens aiment ça souvent. Voilà. Et je raconte les petits désordres du monde, les grands et petits désordres de cette époque. Donc on pourra s'y retrouver bien. Voilà, et puis à l'automne, il y aura un récit de nature à la Salamandre, à nouveau, qui va s'appeler Une femme sauvage, et qui raconte un drôle de destin, celui d'une femme qui un jour est partie vivre dans la montagne, loin de nous. J'en dis pas plus, mais c'est d'une cruelle actualité aussi.
Pour terminer, Pascal Dessin, Polar Vin et Compagnie, un vin ?
Ah, ben un Aveyronnais, forcément, un Marcillac, un Domaine de Caroli.
Merci Pascal Dessin et à bientôt. Au revoir.
Au revoir, merci.
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fort riche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant
sa cloche. Je sais pas où il est passé.
Hein? Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur?
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec.
Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance.
Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis.
C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse. Un quart de flic au trousse, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas. Oui, oh, 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 oh.
Arthur, où t'as mis le corps?
C'est crié les inspecteurs.
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis.
Alors, y a plus de preuves, hein? Hein, y a plus de preuves.
On a écopé 10 ans. C'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cognait plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais à nous-mêmes on pensait, Arthur se paye notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui?
Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait.
Arthur, il en est mort et on ne sait pas où il est passé. Ah mince alors Arthur, oui.
Allons mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis, hein? Dites-le à votre bon petit directeur, hein?
Aucun nous ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de mer. Et le directeur Furax attrapait des anthrax à dire qu'il se perde. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donne rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, ça tourne les enfants, ça tourne.
Arthur,
es-tu là?
Oui, le corps.
Arthur, où t'as mis ton corps?
Moi, j'ai plus de corps, le corps.
Arthur, as-tu du cœur?
Bolotte, les gars, rebolotte et 19 d'air.
Ah! Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh, la vache, Arthur!
C'était Serge Reggiani. Arthur, où t'as mis le corps dans l'émission Polar, Vin et Compagnie. Bon, on a parlé de Polar, en bonne compagnie. On n'a toujours pas parlé Pinard.
Il y a trop de gens qui ne savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Oui, et bien, interdit que je sache.
Je suis avec Joël Gradels du domaine de la Carolie à Valady. Pascal Dessin, que nous avons reçu le 5 mars dernier à Millau, nous a parlé de vous. Alors, vous êtes qui ?
Alors, je suis Joël Gradels, donc viticulteur de père en fils, parce que la petite histoire, c'est qu'il y en a qui sont nés avant moi, la Carolie. Donc, dans ce petit vignoble de Marcillac, je cultive 8 hectares de vignes avec mon épouse et mon fils qui nous a rejoints sur le GAEC maintenant. Voilà, après, pour la petite info, ça fait 14 générations qu'on est viticulteur de père en fils dans les murs de la Carolie.
Ah oui, quand même. Alors, voilà. Vu du sud Aveyron, Marcillac, pour nous, c'est le Rougier.
Alors, c'est le Rougier, c'est vrai. Une force du petit vignoble de Marcillac, c'est qu'on n'a qu'un cépage. Le fer cervado, qu'on trouve quasiment pas ailleurs, un tout petit peu à Gaillac, où ils l'appellent le brocol. Sinon, on est les seuls à le vinifier en cépage unique. Donc ça, c'est une particularité qu'on a. Donc on a un seul cépage, mais on est tous différents, j'ai envie de dire. Le Marcillac est forcément le vôtre, parce que, justement, il y a à peu près 70% de rougiers, mais il y a aussi des calcaires. Il y a aussi, dans ces rougiers, des calcaires alcalins, enfin avec des pH alcalins, parce que les rougiers, les calcaires sont supérieurs et les rougiers sont au-dessous. Il y a aussi des rougiers acides. Donc, on a tous des terroirs différents. Alors, majoritairement, c'est vrai que le Marcillac, c'est le côté Clairvaux. Vous avez Clairvaux, Brujoux, Clairvaux, là-bas, Saint-Christophe, Valady. Là, c'est vraiment la terre rouge, mais les calcaires sont juste au-dessus, en fait. Et on a pas mal de vignes qui sont dans les calcaires. Personnellement, chez nous, c'est que du calcaire, justement, et calcaire pierreux. Parce que le côté versant, c'est de la source, en fait, de dire, c'est une vallée perpendiculaire, en fait, qui rejoint un peu, qui coupe par le milieu. Et donc, là, c'est que du rocher et de la piraille, quoi. Et de l'éboulis calcaire, le contrefort du Coche-Comtal, quoi.
Et ça a un effet, du coup, sur le goût du vin ou...
Ah oui, on est tous différents. C'est notre force. En fait, ce que je vous disais, c'est que le Marcillac, il y a forcément le vôtre. Il nous faut tous les goûter, et que ce soit de la Carolie ou un autre. Et en fait, il y a forcément un vin à votre goût, quoi. Et après, on a une chance énorme, c'est par les temps qui courent. On a partout en France des degrés qui montent. Mmh. Et nous, Marcillac, on est préservé à cause de, pour ça. Même si on était un peu plus haut qu'il y a quelques années, certes. Mais le travail du vigneron, j'ai envie de dire, globalement, joue aussi son rôle, parce qu'on travaille autrement, on a les vignes enherbées, enfin, c'est plus du tout comme faisaient nos parents ou nos grands-parents. Mais ce qui nous sauve à Marcillac, c'est la proximité de l'Aubrac. Alors je fais sourire quand je dis ça, mais on est à 35 km à vol d'oiseau des plateaux de l'Aubrac à 1400 mètres d'altitude. Et quelque part, j'ai envie de dire que même quand on a du 40 degrés le jour, on a toujours les nuits fraîches, on dort bien à Marcillac. Et le végétal, il va être un peu comme nous, il va se refaire une santé, et il va un peu, on n'aura pas de stress hydrique, et finalement, ça fait qu'on a quand même des vins qui restent friands, qui restent sur le fruit, qui restent intéressants, et par les temps qui courent, je vous avoue que, voilà, quand on a moi j'ai des collègues aujourd'hui qui ne savaient plus comment faire pour ne pas récupérer du 15 ou 16 degrés dans leur vigne.
Ah oui.
Nous, on est toujours sur du... Allez, à Marcillac, on est toujours entre du 12 et du 13,5. Quoi. On reste sur des choses correctes, très correctes, je dirais même. Et même sur du 13,5, on n'a jamais cette perception d'alcool et ce côté chaleureux qu'on rencontre de plus en plus sur les vins. Ce qui fait de nous encore, j'ai envie de dire, un bon Aveyronais, des vins à boire, tout simplement. Quoi.
Et alors, si on parlait... plus précisément, de vos cuvées à vous, du domaine de la Carolie.
Alors, la Carolie, c'est pas très compliqué. On a trois vignes, on fait trois vignes. On vinifie par vigne, si vous voulez, tout simplement. Donc, ce qu'on appelle, nous, le tur, c'est ce qu'on appelait tradition, c'est l'éboulis calcaire. C'est le contrefort du Coche-Comtal, je vous le disais tout à l'heure. Alors, la vigne est dans cet état de cailloux, parce que je résume, mais c'est à peu près ça, hein. Mais chez vous, quand on vient du Larzac ou de Millau, là, on le voit bien, vous avez une barre calcaire là, qui se désagrège, et au-dessous, je résume, je présente comme ça, mais c'est vraiment un tas de cailloux. La vigne va descendre là-dedans, et elle va trouver de la fraîcheur, et cette fraîcheur, elle va vous le rendre avec ses fruits frais, avec ses fruits rouges. Alors, c'est les vins, encore une fois, la vérité que je suis, est parfaitement capable d'attaquer ça le matin au petit déjeuner, s'il va bien, jusqu'au soir à l'apéro, il n'y a pas de souci.
D'accord.
Et c'est des vins qui passent partout, qui sont agréables. Bon, on a la chance, là, enfin, j'ai deux pistoles là, qui ont 25 ans là, et en fait, ils nous piquaient les cartons là, pour faire l'apéro avec les copains, aussi bien que sur des repas un peu légers, friands.
Avec quel plat vous le conseillez ?
Alors, moi, je dis viande rouge, viande blanche plutôt, et grillade, presque comme un rosé. Vous le servez à température de cave, j'ai envie de dire, à 13-14 degrés, là, et il passe partout. Mais vous pouvez le mettre sur un repas normal, parce que le Marcillac a ce côté tannin fin. C'est pas des tannins mûrs, hein, le fer cervado, et bon, c'est toujours un côté fruité qui s'épaule sur du... Des notes un peu réduites, un peu épicées, donc c'est facile, quoi. C'est facile de le caser n'importe où, quoi.
D'accord. Bah, écoutez, monsieur Joël Gradels, domaine de la Carolie, on vous remercie, on sent la passion du vigneron, on a envie de déguster. On va remercier Pascal Desennes de vous avoir fait découvrir, et puis bah, peut-être qu'un domaine de la Carolie à boire avec modération en lisant justement un livre de Pascal Desennes, Du bruit sous le silence par exemple.
Aucun souci.
Voilà.
Je pense que ça peut très bien aller.
Merci et au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Eh bien, c'est la fin de cette nouvelle émission Polar Vin et Compagnie. Au revoir, Florent.
Au revoir.
Au revoir.
Guy, William.
Au revoir.
On se retrouve dans 15 jours. Et aux auditeurs, n'oubliez pas le prix Robin Cook dans toutes les bonnes médiathèques du Sud-Aveyron.